Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiyot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce jeudi 22 décembre 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. 99% des médias occidentaux soutiennent Israël. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, Eutelsat met fin à toutes les activités de diffusion en Iran dans le cadre des pressions maximales occidentales contre le pays. Les larmes de crocodile des États-Unis pour l'Iran, Téhéran met en garde. Et puis l'Iran condamne le pillage des ressources naturelles en Syrie. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'opérateur satellite français Eutelsat a retiré la radiodiffusion de la République islamique d'Iran, IRIB. L'opérateur affirme que sa décision de cesser brusquement ses activités avec l'IRIB va dans le cadre des sanctions de l'Union européenne imposées au début du mois à l'Iran. L'Union européenne a imposé des sanctions à des dizaines d'individus iraniens et à plusieurs entités suite à la réponse du pays aux récentes émeutes. L'Eutelsat a informé Téhéran qu'il supprimerait les chaînes iraniennes, y compris Presse TV, qui diffuse en langue anglaise peu de temps après l'annonce de l'interdiction. Téhéran avait fermement condamné cette décision, affirmant que cette décision démasque plus que jamais le visage des faux défenseurs de la liberté d'expression et de libre circulation de l'information. Pendant ce temps, l'Europe continue d'héberger des chaînes de télévision persanophones anti-iraniens qui incitent à la violence et au terrorisme en Iran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères réagit aux propos interventionnistes du département d'État américain sur les affaires intérieures de l'Iran à l'occasion de la nuit de Yalta. Le ministère iranien des Affaires étrangères a critiqué les États-Unis pour avoir fait une déclaration interventionniste à l'occasion de la nuit de Yalta, affirmant que Washington versait des larmes de crocodile aux Iraniens avec sa longue liste d'actions inhumaines contre la nation iranienne. Les États-Unis, qui soutiennent les émeutes et le terrorisme, imposent des sanctions et une pression maximale contre le peuple iranien, versent des larmes de crocodile pour les Iraniens dans la nuit festive et traditionnelle de Yalta, a tweeté mercredi 21 décembre le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani. Plutôt, le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a saisi l'occasion de l'arrivée de l'hiver, qui est célébrée dans tout l'Iran sous le nom de la nuit de Yalta, pour remettre en question la réponse de Téhéran aux récentes émeutes soutenues par l'étranger. Nous pleurons avec le peuple iranien et nous réitérons notre engagement envers le peuple iranien, a déclaré le responsable américain, exhortant les autorités iraniennes à écouter le peuple. Nasser Kanani a déclaré que les États-Unis avaient été au premier rang des pays occidentaux qui ont prêté leur soutien à l'anarchie et au terrorisme. Il vaut mieux que les alliés et les partisans des terroristes connus se taisent et passent cette nuit à penser à trouver des solutions aux crises qui frappent leur pays et le régime sioniste, a déclaré le responsable iranien, s'adressant entre autres au régime israélien, qui est le principal allié régional des États-Unis. L'Iran a été le théâtre d'émeutes meurtrières au cours des dernières semaines, des émeutiers soutenus par l'étranger, cherchant à détourner les manifestations qui ont éclaté à la mi-septembre après la mort d'une jeune iranienne, Mahsa Amini, aux émeutes. Peu après, il a été prouvé que le décès était dû à une maladie et non à la faute des forces de l'ordre du pays. Un grand nombre de civils iraniens et des forces de sécurité ont été tués dans les émeutes. Les forces de sécurité iraniennes et les agents de renseignement ont, dès le début des émeutes, déployé des efforts rigoureux pour identifier les anarchistes et les éléments meurtriers qui doivent être traduits en justice. Kanani a également rappelé « Les États-Unis prétendent se soucier du peuple iranien alors qu'ils soumettent la République islamique d'Iran à des sanctions et une pression maximale inhumaine. » L'Iran condamne le pillage des ressources naturelles en Syrie. L'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Amir Saïd Iravani, a condamné le pillage des ressources naturelles syriennes, en particulier les produits pétroliers dans les zones occupées par les forces étrangères, et a souligné « La guerre contre le terrorisme ne doit pas être utilisée pour saper la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie ». Selon l'IRNA, depuis la presse de l'ONU, lors de la séance du Conseil de sécurité sur la Syrie, mercredi, le représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'ONU a estimé qu'après plus d'une décennie de conflits, seul un processus politique dirigé et pris en charge par les Syriens et facilité par l'ONU peut mettre fin à la crise en Syrie. Saluant à cet égard les efforts de l'envoyé spécial visant à sortir la Commission constitutionnelle de son impasse actuelle, il s'est réjoui de la récente visite de M. Pedersen à Damas. Pour le représentant, les travaux de la Commission doivent être menés dans le strict respect de son mandat et de son règlement intérieur, sans ingérence ni pression extérieure et sans recours à des délais artificiels. Dans ce cadre, le rôle de l'ONU devrait se limiter à la facilitation, a-t-il souligné, avant de se dire convaincu que la fin de l'occupation et le plein rétablissement de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie sont des conditions préalables à tout règlement politique. L'Arabie saoudite apporte une aide financière à l'organisation terroriste de l'OMK. Un ancien membre du comité central de l'organisation terroriste des Moudjahidines du peuple iranien, OMK, a révélé les détails de la façon dont l'Arabie saoudite a fourni un soutien financier à l'organisation des Moudjahidines au cours des 4 dernières décennies. Masoud Khodabandé, dans son livre récemment publié « De Téhéran à Tirana », a présenté de nouvelles informations sur les modes de financement de l'organisation des Moudjahidines, l'OMK. Du temps de Saddam, il n'y avait pratiquement aucune contrainte financière sur l'organisation, écrit Khodabandé dans son livre. Lors d'un voyage en Arabie saoudite, nous avons apporté 3 camions remplis d'or à Bagdad et de nombreux cadeaux, dont une montre Rolex en or de la marque royale et d'autres objets. Comme le note le livre, après que la dirigeante de l'organisation des Moudjahidines du peuple anti-iranien, Mariam Rajavi, a fui l'Irak, elle a été arrêtée à Paris avec des billets de 10 millions de dollars volés dans des banques irakiennes et la France l'a dévoilée. Selon Khodabandé, à ce jour, 5 terres agricoles ont été achetées en Albanie et un camp a été construit pour les membres de l'organisation qui n'a pas de permis de construire. Enfin, le commerce entre l'Iran et la Chine en hausse de 11% en 2022. Le commerce entre l'Iran et la Chine a atteint 14 milliards et 600 millions de dollars avec une croissance de 11% depuis le début de cette année. Selon l'IRNA, les douanes chinoises ont annoncé que le commerce du pays avec l'Iran au cours des 11 mois de cette année, soit 2022, a augmenté de 11% par rapport à la même période l'an dernier et a atteint 14 milliards 600 millions de dollars. Les échanges commerciaux entre l'Iran et la Chine au cours des mois de janvier à novembre 2021 ont été annoncés à 13 milliards et 100 millions de dollars. Selon ce rapport, les importations chinoises en provenance d'Iran au cours des 11 mois de cette année ont augmenté de 5% par rapport à la même période en 2021 et ont atteint 6,5 milliards de dollars. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. ...99% des médias occidentaux soutiennent Israël. Le journal arabophone basé à Londres, Ra'i Al Yaoum, a vivement critiqué la partialité totale des médias occidentaux envers les crimes du régime sioniste et la censure occidentale sur les crimes du régime dans les pays musulmans du Moyen-Orient. Selon le journal, plus de 99% des médias occidentaux, qu'ils soient visuels, audio ou imprimés, soutiennent pleinement le régime raciste et fasciste d'Israël, dissimulent ses crimes et qualifient toute critique envers les crimes et le bellicisme du régime de Tel Aviv d'antisémitisme. Le régime sioniste est basé sur le terrorisme, tuant et déplaçant des millions de Palestiniens et pillant leurs richesses dès le premier jour de sa création factice. Dans ces médias occidentaux, nous n'avons pas lu un mot sur les souffrances du peuple palestinien qui font l'objet d'un blocus inhumain d'Israël, ainsi que sur les victimes des crimes barbares d'Israël en Cisjordanie et à Gaza, dans le sud du Liban ou encore en Syrie, sur les assauts des colons dans le quartier de la mosquée d'Al-Aqsa. Dans ces médias, nous n'avons rien vu non plus de la détention de 20 000 enfants palestiniens au cours des 20 dernières années et du meurtre de milliers d'autres, écrit Ra'i Al Yaoum. S'agissant de cette approche sélective et de poids de mesure des Occidentaux, il faut évoquer la décision de Tel Sat qui vient d'annoncer la fin de la transmission par ses satellites de plusieurs chaînes russes et d'une chaîne iranienne. La société qui est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde se conforme ainsi à plusieurs injonctions françaises et européennes, tout en acceptant l'impact sur ses finances. Eutelsat vient ainsi dans ce cadre d'annoncer la suspension de trois chaînes, Rossiavan, Pervi Canal et NTV. Une décision qui fait suite à une mise en demeure publiée la semaine dernière par l'autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM, pour qui ces chaînes ont de nombreuses fois été coupables d'appels à la haine et à la violence et de désinformation. La société française s'est par ailleurs conformée à un règlement du Conseil de l'Union européenne en date du 12 décembre dernier qui mettait en place des sanctions destinées à l'Iran en raison de la répression contre ses manifestants et de sa coopération avec la Russie. Eutelsat a ainsi mis fin à l'ensemble des activités de diffusion liées à l'entité islamique république en Iran, Broadcasting, IRIB. Il y a quelques semaines, Presse TV avait été averti de cette éventualité pour sa chaîne par Eutelsat. En effet, l'Union européenne a imposé des sanctions à un certain nombre d'institutions et de personnes iraniennes, dont la chaîne de télévision anglophone Press TV, qui fonctionne 24 heures sur 24 en raison de prétendues violations des droits à la suite des récentes émeutes soutenues par l'étranger dans le pays. Les experts estiment que les sanctions imposées à Press TV par l'Union européenne et auparavant par le gouvernement canadien visent à museler la liberté d'expression et les opinions alternatives. Ils ont également souligné le rôle joué par Press TV au cours des récentes émeutes. La chaîne d'information ayant fait de gros efforts pour contrer les faux récits entretenus par les médias occidentaux concernant les émeutes en Iran. En dépit des fausses affirmations de l'Union européenne, selon lesquelles Press TV est responsable de la production et de la diffusion des aveux forcés des détenus, aucun aveu forcé de ce type n'a été produit ou diffusé par la chaîne d'information en langue anglaise au cours des récentes émeutes. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a averti en octobre que Téhéran prendrait des mesures réciproques si l'Union européenne imposait des mesures restrictives contre la République islamique à la suite des récentes émeutes dans le pays.
Bonjour à tous, bienvenue ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du débat aujourd'hui étant l'Ukraine, la nouvelle responsabilité pénale concernant donc les militaires, ou plutôt les civils engagés contre le front russe, c'est le sujet d'aujourd'hui. Comme le veut notre format débat, nous commençons par un reportage et par la suite nous ferons venir nos invités. Tout de suite, je vous propose donc notre reportage.
Un chef de forces armées ukrainiennes a appelé le chef du gouvernement à signer un projet de loi qui augmenterait considérablement la responsabilité pénale des militaires. Il s'agit de renforcer la responsabilité en cas d'abandon non autorisé d'une unité militaire ou d'un lieu de service, de désertion de départ volontaire du champ de bataille ou de refus d'agir avec des armes, de désobéissance et de non-respect des ordres de combat, comme le confirme le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Valery Zaluzhny, s'adressant au président Volodymyr Zelensky pour l'exhorter à signer un projet de loi visant à augmenter la responsabilité pénale des militaires en pleine guerre. « Je soutiens les modifications pertinentes de la législation adoptée par la Rada d'Ukraine, Conseil suprême d'Ukraine, et je demande au président de signer la loi. » Mon opinion reflète clairement la position des commandants des groupes et des unités militaires qui ont exigé une solution systématique à cet ensemble de problèmes, a déclaré Zaluzhny, cité par le site web ukrainien Euromatsk. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes a souligné que l'armée repose sur la discipline et que si des lacunes dans la législation ne garantissent pas son respect, c'est injuste. Zaluzhny s'est adressé directement aux refuseniks qui peuvent payer une amende ou être condamnés à une probation. Les unités déployées sur la première ligne de front se doivent d'appuyer les autres, ce qui entraîne une augmentation de la perte de personnel, de territoire et de civils, d'autant plus que les positions souvent perdues doivent être restaurées par des opérations d'assaut à un prix très élevé, a déploré Zaluzhny. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes a déclaré que ce problème pourrait être résolu de manière plus douce par des explications et de la persuasion en temps de paix. Mais dans des conditions de guerre, ce sont des solutions rapides et efficaces qui sont nécessaires.
Nous voilà sur nos plateaux, donc maintenant nous allons accueillir nos invités. Notre première invitée étant Madame Christine Néant, reporter de guerre et également fondatrice de Donbass Insider. Bonjour Madame Néant.
Bonjour.
Ravie de vous avoir ici parmi nous, sachant que vous êtes directement sur le front de Donbass et en tout cas pas très loin. Notre deuxième invité étant Monsieur Luc Michel, notre géopoliticien expert pour Presse TV. Bonjour Monsieur Luc Michel.
Bonjour, bonjour Madame Néant, que j'ai grand plaisir à retrouver, et bonjour à toute notre équipe.
Madame Néant, on va commencer par vous. Notre sujet étant la responsabilité pénale voulue contre les civils ukrainiens engagés sur le front russe. Certains miliciens qui ont pu être interviewés par des chaînes européennes ont indiqué que le front de Donbass ressemblait beaucoup plutôt à la Seconde Guerre mondiale, à des tranchées, et que c'était très hard sur les fronts. Vous-même, passant souvent là-bas en tant que reportrice de guerre, que se passe-t-il là-bas? Est-ce que c'est aussi difficile que l'indique ce genre de déclaration de la part de l'État ukrainien?
Oui, la situation est effectivement très difficile, surtout pour les soldats ukrainiens, puisque actuellement, entre autres, le gros point chaud du front, c'est Artyomovsk, Bakhmout, qui s'est transformé littéralement en boucherie pour les soldats ukrainiens. Ils ont des pertes qui se comptent en plusieurs centaines de soldats par jour. Donc forcément, de plus en plus de soldats ukrainiens désertent, tout simplement, refusent d'aller à l'assaut, d'aller au combat. On voit des choses assez surréalistes, comme des équipages de chars qui sont envoyés à l'attaque avec les écoutilles soudées pour les empêcher de s'enfuir du char et de se rendre. En fait, ce durcissement de la législation qui est voulu par le commandant Zaloujny n'a rien d'étonnant. C'est-à-dire qu'ils essayent d'arrêter l'hémorragie au niveau des désertions. Beaucoup de soldats ukrainiens se rendent et ils essayent de terroriser en fait les soldats ukrainiens pour empêcher qu'ils ne le fassent.
D'accord. Donc, par exemple, ces propos qu'on dise que les Russes font des crimes de guerre contre les soldats ukrainiens, c'est pour faire peur aux Ukrainiens, pour qu'ils ne se rendent pas?
C'est ça. C'est exactement ça, d'ailleurs. Les soldats ukrainiens qui se rendent, généralement, ils sont absolument terrorisés. Ils pensent qu'on va leur faire plein d'horreurs. Et en fin de compte, ils se rendent compte qu'ils sont traités de manière tout à fait humaine et normale, en respect des conventions internationales. Et ils le disent eux-mêmes, après lors d'interviews, qu'ils ne s'y attendaient pas du tout, qu'on leur avait vraiment bourré le crâne avec vraiment, ils vont vous faire subir plein d'horreurs. Puisqu'en fait, comme les soldats ukrainiens ont eux-mêmes commis des crimes de guerre contre les soldats russes qui sont tombés vivants entre leurs mains, eh bien forcément ils se disent que les Russes vont se venger, ce qui n'est pas du tout le cas, et donc ils se rendent avec une très très grosse crainte. Donc c'est quand même pour dire à quel point ils n'ont vraiment pas envie d'aller au combat pour quand même se rendre à des soldats dont ils pensent qu'ils vont les maltraiter.
Vous-même, vous êtes reportrice de guerre. On a entendu parler au début de la situation que les reporters étaient pris pour cible par les soldats ukrainiens parce qu'ils ne voulaient pas qu'on sache ce qui se passe sur le terrain. On les a beaucoup accusés d'avoir pris les civils pour empêcher les tirs russes. Vous-même, en tant que reporter, ce qui vous protège sur le terrain ?
Bien, généralement, de toute façon, quand on va sur la ligne de front, on y va avec des représentants, ici de la milice populaire de la RPD, pour assurer notre sécurité. Mais effectivement, j'ai déjà été ciblé plusieurs fois, que ce soit en 2016 à Zaïtsevo, où on s'est fait tirer dessus par des soldats ukrainiens. Cette année, j'ai eu ma voiture qui a été totalement détruite par un bombardement de l'armée ukrainienne en périphérie de Donetsk. Et on voit d'ailleurs pendant toute cette période, pendant l'été et là maintenant encore, l'armée ukrainienne utilise la même technique que les terroristes en Syrie, c'est-à-dire un premier bombardement. Et puis ils attendent que soit les secouristes, soit les journalistes arrivent sur place et ils bombardent le même endroit une heure et demie après, histoire de faire un maximum de victimes. Donc oui, les journalistes sont des cibles. D'ailleurs, la plupart des journalistes qui font réellement leur travail dans le Donbass et dans la zone de l'opération spéciale de manière générale, la plupart, on est tous listés sur le site Mirodvorets, qui est en fait une liste de personnes à tuer. Je rappelle que Daria Dougina a eu ses données personnelles publiées là-bas un mois et demi avant d'être assassinée. Le journaliste ukrainien Oles Bouzina et bien d'autres. Oui, pour l'État ukrainien, les gens qui disent la vérité sur ce qui se passe, eh bien, sont des gens à abattre.
Une autre question que j'ai envie de poser, c'est en tant que reporter, est-ce que vous avez fait face aux experts qui sont venus prendre des preuves concernant les crimes de guerre, crimes contre l'humanité? Est-ce que vous avez discuté avec ces experts?
Vous parlez des experts d'organisations internationales comme l'OSCE?
C'est ça, exactement, qui sont venus, qui sont soi-disant venus sur place pour récolter des preuves des crimes de guerre des deux côtés. On a entendu que la partie ukrainienne et finalement on n'a pas encore reçu les preuves, mais je veux savoir un peu plus sur ces fameux experts.
Alors ces fameux experts internationaux, moi je les ai vus à l'œuvre. C'est assez édifiant, c'est-à-dire c'est des gens qui s'arrêtent de travailler à des heures absolument, à 2h30 de l'après-midi, ils ont terminé leur journée de travail. C'est des gens qui ont toujours eu une vision extrêmement partiale du conflit, ils ont toujours été du côté ukrainien et ça se voyait. On a découvert d'ailleurs, une fois que les troupes russes ont commencé à avancer dans le sud, entre autres vers Mariupol, qu'en fait l'OSCE collaborait avec l'armée ukrainienne, que les caméras de surveillance de l'OSCE qui étaient censées enregistrer les violations du cessez-le-feu sur la ligne de front étaient utilisées par l'armée ukrainienne pour corriger ses propres tirs d'artillerie sur les unités de la milice populaire, qu'elle pouvait surveiller tout son sous grâce à ses caméras. On a découvert d'ailleurs avec mon collègue Laurent Braillard une base de soldats ukrainiens qui était juste à côté d'une base de l'OSCE. Cette base des soldats ukrainiens, il y avait quatre emplacements pour des pièces d'artillerie lourdes. On a retrouvé d'ailleurs des douilles, hein, des grosses cartouches d'obus, c'était du 122 ou du 152 mm. Bien entendu, tous ces bombardements-là n'ont jamais été rapportés par l'OSCE, alors que les pièces d'artillerie qui faisaient ces bombardements était dans la maison d'à côté. Donc, moi, ces experts, j'ai vu comment au fil des années, ils ont de moins en moins fait leur travail. Ils se rendaient de moins en moins sur les lieux de bombardement. Ils cachaient les véritables calibres d'armes qui étaient utilisés. Moi, je me souviens d'un bombardement, c'était en décembre 2016. Une pauvre grand-mère qui a eu sa maison complètement dévastée par un obus d'artillerie lourde qui est tombée dans son jardin, qui a fait un cratère de 2,5 mètres de large et d'un bon mètre de profondeur dans son jardin. Les observateurs de l'OSCE, sans trembler des genoux, nous ont sorti que c'était de l'obus de mortier de 82 mm. Bon, si vous voulez, ces experts-là, je ne compte pas vraiment sur eux pour recueillir des preuves.
Merci à Christine Néant. Alors, on va venir à notre deuxième invité, Monsieur Luc Michel, notre expert souvent sur Presse TV. D'ailleurs, on vous remercie de votre expertise. Monsieur Luc Michel, ces derniers temps, l'Europe semble moins soutenir le front ukrainien. Je ne parle pas d'un point de vue matériel, mais plus psychologique. Il semble que les rumeurs concernant les crimes de guerre de l'Ukraine commencent à faire son effet en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce sont des vraies craintes ou alors c'est juste une manière pour les Européens de ne pas se salir plus les mains?
Écoutez, il y a une propagande de guerre de l'OTAN qui fait croire que l'Ukraine est en train de gagner la guerre. Mais c'est faux. L'armée ukrainienne est en train de s'effondrer et l'État ukrainien est en train de s'effondrer. L'armée ukrainienne a eu près de 100 000 morts. On prétend que dans la bataille de Bakhmut, qui est un Verdun, dans le Donbass, il y a eu presque 30 000 morts. Il y a donc considérable de déserteurs. C'est cela qu'il faut retenir. Les arsenaux occidentaux, en particulier en Europe, ils sont vides. On ne sait plus fournir des armées, des munitions. Et donc, il y a une tendance du côté occidental, en particulier européen, à se retirer de la guerre en Ukraine. En ce qui concerne l'OSCE, je connais bien l'OSCE, puisque entre 2010 et 2015, j'ai organisé des centaines de missions de monitoring pendant les élections en Ukraine, en Russie, en Arménie ou en Moldavie. L'OSCE était clairement du côté occidental et mon ONG a été créé pour fournir un monitoring non aligné face à l'OSCE. Donc il n'y a rien à attendre de ces gens. Ce sont des occidentaux qui mènent des opérations biaisées, en particulier dans la guerre du Donbass.
Merci Luc Michel. Madame Christignan, est-ce que vous êtes d'accord avec l'expertise de Monsieur Luc Michel concernant le fait que les Européens commencent à comprendre que le front ukrainien faiblit ?
Seulement ça, mais effectivement, comme disait Monsieur Luc Michel, les arsenaux européens n'ont jamais été conçus pour une guerre de longue durée et une guerre où les matériels se feraient détruire à cette vitesse. Les usines d'armement occidentales n'arrivent pas à suivre le rythme. Ils le disent d'ailleurs de plus en plus, on le voit entre autres surtout dans les médias anglo-saxons qui sont un peu plus honnêtes de ce côté-là, et qui le disent. Enfin, la quantité d'obus qui est consommée par l'armée ukrainienne en un mois, c'est, je crois, ce que produisent normalement les usines d'armement américaines en un an. Donc il y a un gros problème, c'est que ça n'arrive pas à suivre entre la destruction d'ailleurs et la revente, hein. Parce que je signale que l'Ukraine revend une bonne partie des armements qu'elle reçoit des pays occidentaux. Il n'y en a qu'une faible partie qui arrive jusqu'au front. On a pu voir sur le dark web des annonces de vente de Javelin, de Enlo, mais même des chars ou des pièces d'artillerie. Donc, et toutes ces armes, elles vont finir entre les mains de groupuscules terroristes, voire de groupuscules néo-nazis, comme on a pu le voir récemment en Italie, où ils ont arrêté tout un groupe de néo-nazis qui avait un véritable arsenal. Et je pense que si on commence à retracer l'origine des armes, on va avoir des liens évidents avec l'Ukraine.
Vous êtes d'accord, M. Luc Michel ? Les Européens ont peur de ça, le fait que ces armes circulent dans toute l'Europe, qu'on a vu en Allemagne des séparatistes ou cette volonté de dire que l'Allemagne se sépare, l'Italie, comme la vient l'indiquer Mme Néant. Vous êtes d'accord avec cette expertise ?
Le problème se pose surtout en Afrique. Il y a plusieurs chefs d'État africains, notamment à la tête de l'Union africaine, qui ont dénoncé la fourniture aux organisations terroristes d'armement ukrainien. C'est clairement tracé et évidemment c'est quelque chose que nous annoncions dès les premières semaines de la guerre. L'Ukraine, c'est un régime corrompu et le trafic d'armes est organisé sur le dark web par Zelensky et sa femme. On les accuse notamment d'avoir fait 1,2 milliard d'euros de vente d'armes et de commissions occultes. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc évidemment, une grande partie des armements n'arrive jamais en Ukraine. Ils partent directement vers les mafias européennes, vers les organisations criminelles et vers les organisations terroristes africaines. On peut d'ailleurs soupçonner l'OTAN et les Occidentaux de se servir de ce moyen pour fournir leurs complices terroristes en Afrique.
Merci Luc Michel. Alors une des dernières questions que j'ai envie de poser, c'est la rencontre en Biélorussie de M. Poutine et du Président. Est-ce que ça veut dire que la Biélorussie va s'impliquer dans la guerre, Mme Christine Néant ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes qui est sur place ?
Non, je pense que cette rencontre avait surtout pour but de faire avancer, on va dire, l'état de l'Union, hein, puisqu'il y a des accords qui vise à intégrer de plus en plus la Biélorussie avec la Russie. Et on a vu régulièrement au fur et à mesure du temps que ces réunions étaient nécessaires pour faire avancer le processus qui sinon est un petit peu lent. Donc régulièrement, Loukachenko et Vladimir Poutine se rencontrent et ça accélère un petit peu les choses. Je pense qu'ils ont aussi discuté de tout ce qui est intégration militaire, hein, puisque les armées russes et biélorusses mènent de plus en plus d'exercices conjoints, qu'il y a aussi des accords de fourniture d'armement de la Russie vers la Biélorussie pour permettre à la Biélorussie de se défendre. Hein. On a vu récemment, entre autres, tant l'Ukraine que la Pologne qui ont violemment militarisé la frontière qu'ils avaient avec la Biélorussie, hein, ce qui fait craindre une possible escalade à ces frontières. Et donc forcément, le président Loukachenko, je pense, a discuté avec Vladimir Poutine de ses risques et de ce que la Russie peut faire pour aider son voisin à se défendre si jamais ça devait arriver.
Merci Mme Néant. Monsieur Luc Michel, vous-même vous êtes d'accord, la Biélorussie ne va pas s'engager dans le conflit ukrainien, c'est juste un support peut-être logistique ou juste géopolitique.
Il y a toute une propagande de l'OTAN qui veut faire croire que la Russie va étendre au Belarus et à la Moldavie d'ailleurs la guerre. C'est tout à fait faux. La Biélorussie, c'est une des principales bases logistiques de l'armée russe et ça permet à l'armée russe de menacer directement Kiev, puisque Kiev n'est pas loin de Minsk. Mais il ne faut pas s'attendre, évidemment, à ce que l'armée du Bélarus entre en Ukraine.
Merci, Luc Michel. Alors, Mme Christine Néant, une question, je pense, que normale à poser. Vous pensez que le conflit va encore durer, sachant que les Européens commencent à s'essouffler, que les Ukrainiens eux-mêmes sont certainement fatigués par le conflit, n'étant pas assez armés, avec l'hiver également présent. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on sait, certains experts disent que la Russie peut partir pour 5 ans. Vous-même, que pensez-vous, étant donné que vous êtes sur place?
Je pense que ça va être relativement long. Enfin, ça va dépendre aussi à quel moment, en fait, la population ukrainienne va craquer. Presque autant qu'à quel moment la défense ukrainienne va craquer. On voit que Bakhmout, Kiev envoie de plus en plus de renforts pour compenser les pertes énormes, mais il y a un moment où en fait ils vont plus pouvoir. Et donc une fois que Bakhmout aura craqué, par exemple, eh bien ça va ouvrir la voie vers Kramatorsk et Slaviansk. Mais prendre des villes aussi grandes, ça va pas se faire en un coup de cuillère à peau. Ça va être long. On l'a vu avec la prise de Mariupol, ça va être relativement long. Et plus les Occidentaux vont empêcher Volodymyr Zelensky de signer un accord pour mettre fin à la guerre, plus la Russie va continuer l'opération spéciale. Et donc, plus l'Ukraine risque de perdre de territoire. Mais bien entendu, tout ça prend du temps. Donc, je pense, oui, que ça va être un conflit qui ne va pas se régler là, maintenant. Les conditions ne sont pas encore franchement hivernales. Il y a eu un dégel. Donc, pour l'instant, pas encore de très, très grandes offensives. Il y a des avancées côté russe, mais pour l'instant, on va voir, en fait, tout va dépendre de à quel moment la population ukrainienne va dire stop. Pour l'instant, ils endurent. Il y a une répression très, très forte en Ukraine contre toute voix dissidente, mais il y a un moment où ça ne tiendra plus. La question, c'est quand.
D'accord, merci Madame Néant. Monsieur Luc Michel, pour conclure, vous pensez que l'Europe saura tenir parce que son économie, beaucoup d'économistes qui ont fait leur résumé de l'année 2022 et de ce qu'il faut s'attendre en 2023, il semblerait que les vraies conséquences de la guerre vont plutôt arriver du côté 2023-2024. Vous en pensez quoi? Le peuple européen, pas seulement les Ukrainiens, mais le peuple européen peut tenir?
Non, l'Europe s'est engagée dans la guerre des sanctions, dans la guerre du gaz, dans la guerre du pétrole. L'expert français Macarèche a déclaré que l'Europe ivre d'elle-même était prise d'élection très bête. Il y a une crise économique, l'industrie européenne est en train d'être liquidée et les populations européennes payent cash le prix de la guerre américaine en Ukraine. Je ne crois pas qu'ils vont donc continuer. La Russie, par contre, elle a les moyens de financer la guerre, elle a les armements. Elle a les anciens armements soviétiques qui sont considérables. Elle a donc prévu une guerre de longue durée. Il faut comprendre quelque chose, c'est que la guerre du Donbass n'a pas commencé en février 2022. Elle a commencé en mars 2014, elle a donc 8 ans, et la Russie est prête à une guerre de longue durée. La réaction de la Russie à la guerre des sanctions aussi a été préparée sur une longue distance. Les Européens se sont fait attirer dans un piège. Ils se sont fait piéger par la Russie, mais ils se sont fait également piéger par les Américains, puisque l'un des buts des Américains, c'est de briser l'économie ouest-européenne, qui est la principale concurrente des Américains. Je ne crois pas que l'Europe va pouvoir durer longtemps dans son soutien à l'Ukraine.
Merci. Madame Christine, je vous ai vu grâce à votre, je répète, vous avez donc un télégramme qui s'appelle Donbass Insider qui publie régulièrement, tous les jours, plusieurs fois dans la journée, la situation donc sur les fronts, parce qu'il y a plusieurs fronts. Vous êtes allé avec Johnny Miller, qui est un des autres reporters que Presse TV suit, à Moscou. C'est quoi le climat? C'est pour conclure, c'est quoi le climat des Russes? Est-ce que les Russes soutiennent toujours la situation de guerre qui se passe dans les Donbass? Est-ce qu'ils soutiennent toujours cette partie ukrainienne russophone?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, le soutien de la population russe s'est renforcé depuis le début de l'opération spéciale. Maintenant, il y a vraiment un soutien écrasant pour l'opération spéciale. Et d'ailleurs, beaucoup de Russes trouvent que les autorités sont encore on va dire, trop gentille avec l'Ukraine. Il y a de plus en plus de gens qui veulent que l'armée russe frappe de manière beaucoup plus radicale et beaucoup plus forte. Donc on voit vraiment un changement de l'opinion publique qui a vraiment vu, je pense, avec le début de l'opération spéciale et surtout ce qui s'est passé à Mariupol, toute l'horreur, on va dire, des crimes de guerre dont l'armée ukrainienne était capable. Et ça a vraiment, je pense, retourné l'opinion russe qui, jusque-là, avait un regard plutôt, on va dire, fraternel vis-à-vis du peuple ukrainien. Et là, on voit quand même un changement d'opinion. Les gens commencent vraiment à réaliser ce qu'a enduré le Donbass pendant 8 ans.
Merci. Alors, je remercie encore à nos experts qui gracieusement participent toujours à nos débats. Madame Christine Néant, fondatrice de Donbass Insider, Monsieur Luc Michel, également très présent sur les réseaux sociaux et qui est un de nos experts, surtout concernant le continent africain. Je vous remercie à tous deux. C'est ici que se finit notre débat. On a eu aujourd'hui la chance de savoir, d'avoir un œil direct sur ce qui se passe sur le conflit en Ukraine. Ce ne sont pas des informations qui ont été créées. Vous pouvez vous-même aller voir les images et photos qu'il y a sur la page Telegram Donbass Insider. Moi, je vous propose toujours, Presse TV et la chaîne Presse TV vous propose toujours d'autres vérités qui sont partagées sur les médias. À vous de faire votre opinion. Moi, ici, je vous dis au revoir et je vous dis à la prochaine fois pour un autre sujet du débat. Au revoir.
De l'éloquence est le plus célèbre recueil de sermons, lettres, exégèses et récits attribués à l'imam Ali, béni soit-il. Il a été recueilli par Sharif Razi au Xe siècle. Connu pour son contenu éloquent, il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature dans l'islam chiite, après le Coran et les hadiths prophétiques. Dans cette 33e édition dédiée à la voix de l'éloquence, nous vous présentons une maxime du successeur du prophète, premier imam des musulmans, l'imam Ali, béni soit-il. À propos de ceux qui ne se sont pas rangés à ses côtés pendant la bataille de Jamal, sans se mettre du côté de ses ennemis, l'imam Ali, béni soit-il, dit « Ils ont méprisé la vérité et n'ont pas soutenu le mensonge. » Dans cette maxime de la voix de l'éloquence, le vénéré imam Ali, béni soit-il, premier imam des chiites, a décrit l'attitude de ceux qui ne l'ont pas accompagné pendant la bataille de Jamal. La bataille de Jamal, qui a eu lieu en l'an 36 de l'Hégire, 656 du calendrier grégorien, aux alentours de Bassora, était la première bataille de l'époque du califat du vénéré imam Ali, béni soit-il. La guerre a été organisée par Aïcha, l'épouse du prophète, ainsi que Talha et Zubayr, deux compagnons du prophète de l'islam, contre l'imam Ali, alors calife des musulmans. Prétendant que l'imam Ali, béni soit-il, avait participé à l'assassinat du calife précédent, Osman, ils démarrèrent ce combat pour venger sa mort. Cette bataille était le premier combat interne à la communauté musulmane. l'imam Ali béni soit-il, a gagné cette bataille, Talha et Zubayr ont été tués et Aïcha a été ramenée à Médine. Un an avant la bataille, en l'an 35 de l'Hégire, 655 du calendrier chrétien, la majorité de la communauté musulmane a insisté à élire le vénéré imam Ali béni soit-il comme leur calife. Talha et Zubayr, deux compagnons du prophète, ont demandé à l'imam Ali de leur confier le califat de Bassora et celui de Koufa, ou de l'Irak et du Yémen. Mais l'imam ne les a pas vus méritants, et il n'a pas accepté leur demande. N'ayant eu ni le califat, ni le gouvernement d'une province, Talha et Zubayr demandèrent à l'imam Ali béni soit-il l'autorisation d'aller à la Mecque. Mais l'imam Ali savaient qu'ils étaient en train de conspirer contre le califat et les intérêts de la communauté des musulmans. Bien que les deux hommes avaient prêté serment d'allégeance au calife, ils ont justifié le manquement à leur parole et à leur allégeance en prétendant qu'ils avaient prêté allégeance avec l'imam Ali béni soit-il sous la force et la crainte. Talha et Zubayr sont partis enfin pour la Mecque et y ont rencontré Aïcha. Ils lui ont demandé de se soulever contre l'imam Ali béni soit-il en prétendant qu'il avait participé à l'assassinat de l'ancien calife. Aïcha a accepté leur demande. Aïcha croyait qu'il fallait aller vers Médine et y commencer le combat. Mais ils se mirent finalement d'accord pour aller à Bassora, car ils n'avaient pas la capacité de confronter et combattre les gens de Médine. En outre, Talha et Zubayr avaient des partisans à Bassora. Ils purent enfin réunir 3000 soldats, dont 900 qui étaient des gens de Médine et de la Mecque. Lorsque l'imam Ali béni soit-il a été informé de l'intention d'Aïcha, Talha et Zubayr, il a demandé le secours aux habitants de Médine et ils ont commencé ainsi à se préparer pour le combat. Arrivé à Bassora, l'imam Ali béni soit-il a campé dans un endroit qui s'appelait Zawiya. Après quelques jours, il entra à Bassora et deux groupes se rencontrèrent. L'imam Ali béni soit-il n'avait pas envie de commencer la guerre. Pendant 3 jours, il a envoyé des lettres aux insurgés pour les dissuader de faire la guerre. Dans une lettre qu'il a envoyée à Talha et Zubayr, l'imam Ali béni soit-il, a indiqué plusieurs sujets. La légitimité de son gouvernement et la prestation d'allégeance des musulmans avec lui. La bataille n'a duré qu'une seule journée. À la fin de la journée, l'armée des insurgés se mit à s'enfuir. Talha et Zubayr ont été tués. Aïcha a été ramené à Médine. Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Thank you.